Il est 7h sur France Culture. Bonjour Anne-Laure Chouin.
Bonjour Benoît, bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, il sera question de la démission de François de Rugy. Elle est intervenue hier alors que Mediapart s'apprêtait à fournir de nouvelles informations sur l'utilisation des indemnités de frais de mandat de l'ancien ministre. Il a été remplacé dans la soirée par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Retour sur une semaine mouvementée avec Stéphane Robert.
Le CETA en question aujourd'hui devant les parlementaires français, les appels à ne pas ratifier le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada se sont multipliés ces derniers jours. Au reportage à venir d'Oana Favenec.
Et nous reviendrons également sur l'élection hier à une très courte majorité d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, ainsi que sur la mort de celui que les Sud-Africains appelaient le Zoulou blanc, Johnny Clegg. Sa démission est donc intervenue hier en fin de matinée après une semaine de révélation du site d'information Mediapart qui s'apprêtait d'ailleurs à en faire de nouvelles. François de Rugy n'a pas attendu la publication de ces informations sur l'utilisation de ses indemnités de frais de mandat lorsqu'il était député, des indemnités utilisées en partie pour payer ses cotisations au parti Europe Écologie Les Verts, selon le site en ligne. Il a remis sa démission au Premier ministre alors que sa position devenait de plus en plus intenable. Il sera remplacé par la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui sera chargée d'opérer la transition écologique en plus de ses fonctions précédentes. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour.
Alors on pensait que ce nouveau remplacement prendrait du temps. Finalement non. Le nom d'Elisabeth Borne a été dévoilé vers 23h40 hier.
Oui, c'est par un communiqué laconique envoyé par courriel à 23h41 hier soir que l'Élysée a donné l'information. On pensait effectivement que ça prendrait du temps. Le remplacement de Nicolas Hulot avait nécessité 8 jours de réflexion. Là, Emmanuel Macron savait apparemment qu'il ne trouverait pas la perle rare pour incarner ses ambitions en matière d'environnement. Il a donc nommé une fidèle, réputée pour son sérieux et la connaissance de ses dossiers, qui a su mener la difficile réforme de la SNCF et qui connaît le ministère de l'écologie, puisqu'elle y a été directrice de cabinet de Ségolène Royal en 2014, avant de prendre la présidence de la RATP en 2015.
Alors avant cela, la semaine avait été très compliquée pour François de Rugy et pour la tête de l'État.
Oui, la situation devenait intenable pour un président en pleine reconquête de l'opinion après la douloureuse séquence des Gilets jaunes. Il y avait eu le grand débat, puis les élections européennes, suivies par un regain de popularité du chef de l'État. Mais Emmanuel Macron a pu voir, d'une part, avec la réapparition de la contestation dimanche 14 juillet sur les Champs-Élysées, que les raisons de la colère n'avaient pas disparu. Et puis il y a les députés La République En Marche qui ont raconté, notamment hier matin à l'occasion du petit déjeuner de la majorité à Matignon, comment cette affaire Rugy est perçue sur le terrain dans leur circonscription. Ça ne passe pas, ont-ils expliqué au Premier ministre. Les gens ne comprennent pas pourquoi Rugy ne démissionne pas. Exactement ce qui remontait il y a un an à propos des 80 km/h, ce dont le pouvoir exécutif avait cru bon ne pas devoir tenir compte. Emmanuel Macron n'avait sans doute également pas très envie de voir cette affaire rebondir au fil des jours et polluer la période estivale comme l'affaire Benalla l'été dernier. Il y a aussi le fait qu'on est en plein examen de la loi énergie-climat. Elle est actuellement au Sénat et le président a fait des enjeux environnementaux et climatiques une priorité de l'acte 2 de son quinquennat. On ne pouvait donc pas garder un François de Rugy affaibli pour porter cette ambition-là. Il a donc été débranché d'un ministère qui, depuis 2 ans, mais c'était aussi le cas auparavant, incarne plus le produit jetable que l'environnement durable.
Merci beaucoup Stéphane Robert. On vous retrouve à 8h. Du côté des parlementaires hier, peu de réactions outrées dans les couloirs de l'Assemblée. Pour beaucoup de députés, la démission du désormais ex-ministre de la Transition écologique apparaissait Rosalie Lafarge, inévitable.
Et même par les siens, ils ont été très peu à lui manifester un quelconque soutien pendant ce feuilleton médiatique. Ils sont plus nombreux à saluer sa décision, à l'image du président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre.
Je l'en remercie car je sais qu'il l'a fait certainement avec beaucoup de difficultés, mais aussi pour protéger notre majorité.
Majorité qui a eu du mal à passer le week-end en circonscription sans se voir reprocher les homards et les grands crus de François de Rugy. Son départ, c'est finalement la suite logique des différents épisodes pour la vice-présidente Les Républicains de l'Assemblée, Annie Genevard.
Lui, le numéro 2 du gouvernement dans l'ordre protocolaire, mettait le gouvernement et le président de la République dans une situation qui était politiquement intenable. En politique, les fautes se paient cash.
Et sous la présidence d'Emmanuel Macron, l'addition est salée, souligne Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national.
Ce gouvernement, depuis 2 ans, a vu un nombre important de ministres sortir pour des affaires diverses et variées. Et en cela, ce nouveau monde n'a rien à envier à l'ancien.
Il a surtout besoin de changer le nouveau monde. Ça, c'est l'avis de l'insoumise Mathilde Panot.
La question, c'est de savoir si c'est seulement François de Rugy qui part, mais que la politique reste la même. qu'on remet des Danone, des Total ou autres au ministère qui continuent à servir les intérêts privés, alors on n'aura pas beaucoup avancé.
Et hier soir, pour défendre le projet de loi énergie-climat devant le Sénat, c'est la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon qui a remplacé François de Rugy au pied levé.
Autre sujet qui concerne les députés français et l'écologie, Anne-Laure, le CETA qui doit être ratifié aujourd'hui par les parlementaires français et qui suscite depuis son adoption par l'Union européenne bien des critiques.
Oui, le traité de libre-échange avec le Canada est déjà entré en vigueur à 90%, reste 10% du texte qui doit être approuvé par le Parlement pour entrer pleinement en application. Hier, plus de 70 organisations appelées à manifester en face de l'Assemblée nationale, syndicats, agriculteurs, ONG et d'autres, avec un mot d'ordre, non à cette ratification. Le reportage d'Oana Favnec.
70 organisations, une conviction, les deux systèmes agricoles canadiens et français ne sont pas compatibles. Maxime Comble, porte-parole d'Attaque, rappelle que, outre-Atlantique, les fermes ultra-intensives sont soumises à des normes beaucoup moins contraignantes.
Sur l'usage des farines animales, sur l'usage des antibiotiques, et en mettant en concurrence ces deux systèmes-là, on sait ce qui va se passer, c'est-à-dire une pression à la baisse sur les normes en Europe, ou une concurrence que ne pourront pas supporter les petits paysans.
Aline Orias du collectif citoyen pour le climat estime, elle, que l'ère du libre-échange et de la croissance infinie doit s'arrêter.
Nous, on voudrait en fait que nos députés ils aient un peu de réalisme et qu'ils aillent enfin à contre-courant de tout ça.
Appel reçu par une petite dizaine de députés, France Insoumise, socialistes, communistes, qui ont même quitté le Palais Bourbon pour rejoindre les rangs de la manifestation. Parmi eux, François Ruffin, qui parle de déni de démocratie.
C'est l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique qui sont au point de départ de cet accord de libre-échange et qui ont tout fait ensuite pour que ça se fasse dans la plus grande opacité. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que ce genre d'accord, les peuples n'en veulent plus.
Même si le texte n'était pas ratifié, les 90% déjà en vigueur depuis 18 mois continueraient à s'appliquer.
Et il n'est pas question de toute façon de revenir sur ce CETA pour la nouvelle présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, a finalement été élue hier par les députés du Parlement européen. Un vote à une très courte majorité, 9 voix de plus que le minimum attendu, pas un plébiscite donc, loin de là. À Strasbourg, les précisions de Johanna Hochstein.
Un résultat très inférieur à celui obtenu par l'actuel président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, il y a 5 ans, Emmanuel Morel de la France Insoumise.
C'est un camouflet pour Madame von der Leyen, mais aussi pour le Conseil des chefs d'État et de gouvernement qui avait trouvé une solution de brique et de broc. Madame von der Leyen a fait un discours ce matin avec quelques arguments vaguement progressistes. Mais on sait ce qu'il en est, c'est toujours des paroles et rarement des actes.
Les trois principales forces politiques de l'hémicycle, les conservateurs, les socialistes et les libéraux, avaient appelé à soutenir la candidature d'Ursula von der Leyen après le débat de ce matin. Mais les socialistes français notamment, et les allemands, ainsi que les écologistes, s'y sont opposés, ce que regrette Nathalie Loiseau, La République En Marche.
Moi je regrette qu'on ait retrouvé les Verts du même côté que l'extrême droite à voter contre elle. Quand on est pro-européen, on vote pour quelqu'un qui a un agenda ambitieux, réformateur pour l'Europe.
À l'annonce des résultats, Ursula von der Leyen a poussé un ouf de soulagement. Dans une très courte intervention, elle a appelé tous les groupes politiques à travailler ensemble de façon constructive.
Il était devenu une icône en Afrique du Sud. On a appris la mort hier soir du chanteur et guitariste Johnny Clegg, surnommé le Zoulou Blanc, mort à 66 ans des suites d'un cancer. Le chanteur avait mis la musique au service de son engagement politique, sa lutte contre le régime raciste de l'apartheid. Dans les années 80, il a vendu plus de 2 millions d'albums dans le monde, alors qu'il était quasiment censuré par le régime sud-africain. Noé Hochet-Baudin est le correspondant de France Culture en Afrique du Sud. Il a recueilli quelques réactions d'habitants de Johannesburg après la mort du musicien.
Derrière le bar de son restaurant, Touri, la cinquantaine, se souvient de son idole de jeunesse.
Quand vous aviez 15 ou 18 ans dans les années 1980, sa musique faisait partie de votre vie. Donc pour moi, ça a été un choc d'apprendre sa mort.
Johnny Clegg a marqué un tournant, selon lui, dans le combat contre l'apartheid.
Dans la vieille Afrique du Sud, c'était du jamais vu de voir un noir et un blanc qui chantaient, qui dansaient ensemble. C'était un message profond, un message que j'ai toujours aimé.
Aubrey a lui 24 ans, il n'était pas encore né au moment du phénomène Johnny Clegg.
Je suis encore jeune, je suis seulement né après la fin de l'apartheid, mais je me suis informé sur lui et sur sa musique. J'ai pu voir l'énorme impact politique qu'il a eu. C'était un avant-gardiste. Aujourd'hui, c'est un triste jour pour l'Afrique du Sud.
Celui que l'on surnomme le Zoulou Blanc sera donc remémoré pour sa musique, bien sûr, mais aussi comme l'un des rares à avoir consacré sa vie pour créer une unité entre tous les Sud-Africains.
Le temps de ce mercredi 17 juillet pour finir, le ciel sera souvent voilé, mais il fera sec et chaud sur la majeure partie du pays. Les températures comptaient ce matin de 8 à 23 degrés du nord au sud, 19 à 35 cet après-midi.